Jazz Fact. Thomas Corbillon.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Bill Evans.
Nous sommes le 15 juillet 1968, le pianiste Bill Evans joue avec son trio sur la scène du Festival de Jazz de Montreux. Il ouvre son concert par l'une de ses compositions. Ça s'appelle One for Ellen. One for Ellen par le trio de Bill Evans. Nous sommes à Montreux donc et au moment de cet enregistrement en 1968. Cela fait 6 ans que Bill Evans a une nouvelle manageuse. Elle s'appelle Ellen Keane et bien sûr, cette composition donc en français, chanson pour Ellen, lui est dédiée. Et il a bien raison, Bill Evans, de montrer toute sa gratitude à l'encontre de celle qui lui a presque sauvé la vie et la carrière d'ailleurs. Le critique Gene Lees, à qui l'on doit cette rencontre, dira même, sans l'arrivée d'Ellen dans sa vie en 1962, Bill Evans n'aurait probablement pas vécu plus de 6 mois. Et d'ajouter, j'ai offert Ellen à Bill, puis Ellen a offert Bill au monde entier. Car bien sûr, quand Gene Lees présente Ellen Keane au pianiste lors d'un concert en août 62 au Village Vanguard à New York, Bill Evans est déjà un pianiste reconnu sur la scène du jazz, sous son nom avec son propre trio et son album Portrait in Jazz, par exemple, ou encore sa participation au disque Kind of Blue de Miles Davis. Mais bien qu'il ait à l'époque 2 managers, aucun ne faisait grand-chose pour lui. Et sur le plan personnel, il avait de gros problèmes d'addiction à la drogue et à l'alcool, à tel point que le même Gene Lees dira un jour à ce propos, c'est le plus long et lent suicide de l'histoire de la musique. Ce que va donc faire Ellen Keane, c'est redonner à Bill Evans le goût de sa vie et de sa musique, en lui trouvant des concerts bien sûr, mais en étant aussi très présente en studio avec lui. Présente tout en sachant quand intervenir. Car c'est là l'une des qualités remarquables d'Ellen Keane, parmi beaucoup d'autres, son sens du timing. Elle sait quand elle doit être pressante pour les négociations de contrat avec les maisons de disques par exemple, mais sait également patienter et montrer sa compétence et ses connaissances au moment voulu. C'est exactement ce qui se passe dans le cas de Bill Evans lorsqu'il est signé sur le label Verve. Le producteur s'appelle alors Creed Taylor et il se rend vite compte que les conseils de Keane, qui n'est alors que manageuse, ses conseils quant au répertoire, au son de l'enregistrement ou au concept des disques, eh bien ces conseils sont toujours très pertinents, si bien que petit à petit, il va lui laisser la main, à tel point qu'en 1966, la production des albums de Bill Evans, eh bien, on la devait grandement à Ellen Keane, même si bien sûr sur les disques, c'est le nom de Creed Taylor qui apparaissait. Et oui, et là on est au cœur du problème. La production des disques, eh bien à l'époque c'était un métier d'homme, comme on disait. C'est ce que dit Keane elle-même dans cette interview par le journaliste Brian Hennessy. Une femme productrice, c'était inédit à l'époque. Ça l'est presque encore aujourd'hui, c'est à peine croyable. Je n'avais pas l'ambition d'être productrice car c'était tellement un univers masculin. Je n'y pensais pas plus que ça en fait. Mais j'ai clairement participé aux séances d'enregistrement quand Bill a signé avec le label Verve. Creed Taylor en était le producteur, mais j'étais toujours présente en studio avec eux et je faisais des suggestions. Je connais très bien la musique. Et je savais instinctivement ce qui allait ou n'allait pas. Et Creed Taylor m'a embarqué avec lui. Il me disait, t'es une vraie productrice, tu fais mon boulot. Et je vois bien que tu as un vrai potentiel pour cela. Et c'est comme ça. Bien, c'est comme ça que la présence en studio d'Ellen Keane devient indispensable pour Bill Evans. C'est que d'être plus, en plus d'être juste sa manageuse, elle devient aussi sa productrice. La confiance est totale, le batteur Joe LaBarbera confiera que Bill Evans avait tellement confiance en Keane qu'en sortant de studio, il lui donnait les bandes des enregistrements, il lui disait « Vas-y, je te laisse boire pour le mix, pour les corrections s'il y en a à faire, puis tu me feras écouter ce que tu en as tiré à la fin. » À tel point qu'Ellen Keane produira 26 disques du pianiste et restera sa manageuse et sa productrice jusqu'en 1980, c'est-à-dire jusqu'à la mort de Bill Evans. Vous l'avez compris, Ellen Keane savait comprendre les gens et aimait également les faire se rencontrer. C'est ainsi qu'en 1975, connaissant l'admiration mutuelle que se portent Bill Evans et le chanteur Tony Bennett, elle prend l'initiative d'en parler à Jack Rollins, le manager de Bennett, et le miracle se produit en juin 1975, en toute intimité en studio, car n'étaient présents que Bill Evans, Tony Bennett, l'ingénieur du son, et, bien sûr, Ellen Keane. Cette osmose cette intimité, ce savoir-faire de productrice, eh bien, ça s'entend. Écoutez.
There's so much more embracing still to be done, but time is racing. Oh, we'll catch up some other time.
En 1978, deux ans avant sa mort, Bill Evans publie un album solo où il s'enregistre plusieurs fois grâce au principe du re-recording. Et ce disque, New Conversations, s'ouvre avec une nouvelle composition dédiée à sa chère productrice et manageuse. Après One for Ellen, en 1966, que l'on écoutait tout à l'heure, ce nouveau morceau, Song for Ellen, est encore plus somptueux, comme une déclaration d'admiration parfaite à cette immense productrice et manageuse, donc, qu'était Ellen Keane.